quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h sur Radio Campus Paris.
Cette semaine, le quatrième mur, c'est celui sur lequel nous accrochons des toiles. Tout comme les trois premiers d'ailleurs, j'ai le plaisir de recevoir une artiste plasticienne qui cherche, par les différentes techniques qu'elle emploie, à interroger la dualité entre le beau et le laid, le meilleur et le pire, et tout ce qui compose la nature humaine. Vaste et beau programme. Nadja M, bonsoir.
Bonsoir Robin.
Alors, on va balayer au cours de l'émission, puisque tu es une artiste très complète, tu fais beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses, ça va être très intéressant, je préfère prévenir tout le monde. Alors d'abord, c'est l'aspect, on va dire, frustrant de la radio, puisqu'on peut parler de ce que tu fais, mais les gens ne le voient pas, du moins pour l'instant. Peut-être qu'ils vont, j'espère, se ruer sur leur téléphone ou leur ordinateur pour voir se rendre sur ton site internet, donc, dont on parlera plus tard. Pour les toiles que tu réalises, tu utilises des techniques mixtes pour tes créations. Quelles sont-elles ? Si tu veux nous parler, pour commencer, de façon plus globale de tes créations.
Alors, pour parler de mes créations, alors déjà, l'idée, c'est... Enfin, ce qui m'est venu, en fait, au niveau des techniques mixtes, c'est que moi, j'aime le mélange des genres. Tout comme quand j'étais plus jeune ou ado, j'adorais la mode et j'adorais le fait de pouvoir mélanger des vêtements qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. J'aime faire des essais, des tests, et j'aime aussi que ça matche pas, en fait, que ça perturbe et que ça disturbe, on va dire. Donc je mélange des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, au niveau ça, c'est mon médium de prédilection. On dit technique mixte, en fait, ça mélange. C'est tout de suite, on parle de ça dès qu'on parle de mélange. Dès que tu mélanges, en fait, de la peinture avec du papier.
Je serais tenté de dire sky is the limit, la créativité au pouvoir. C'est-à-dire, tous les matières, tous les médiums que tu peux utiliser vont t'être utiles et te servir d'inspiration, en fait.
Oui. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, ma définition des techniques mixtes, ça pourrait être, on est dans un endroit, il y a ça à dispo, en l'occurrence, une bouteille en plastique, du papier dans la poubelle, n'importe quoi, en fait, voilà, n'importe quoi qui est à portée de main. Et à partir de là, ben, ton challenge, c'est d'essayer de créer quelque chose avec ça. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait.
D'accord. Alors, tu citais très justement l'exemple tu disais d'utiliser des choses qui sont présentes devant soi, notamment l'idée d'une bouteille en plastique. La transition est toute trouvée pour parler notamment de ce que tu appelles, enfin, d'un courant qu'on appelle l'art écologie. Et dont tu te réclames, auquel tu te rattaches. C'est un des courants dont tu te dis proche. En quoi ça concerne exactement l'art écologie ?
Alors, l'art écologie, c'est un mouvement qui est né dans les années 1960, qui est malheureusement encore, ou heureusement, je ne sais pas, tout à fait d'actualité avec ce que nous sommes en train de faire de notre terre. L'idée de l'art écologie, c'est de créer en réutilisant les matériaux qui sont à notre portée. Alors, il y a eu dans le mouvement d'art écologie, il y a eu comment on appelle ça ? Le land art. Le land art, c'était un mouvement, en fait, qui voulait simplement créer des œuvres éphémères dans la nature, donc des œuvres à partir de branches, de feuilles, et qui n'avait pas peur du fait que les œuvres pouvaient disparaître. Donc, elles étaient posées à un endroit dans une forêt, et puis tu repassais une semaine plus tard et il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est quand même, ça force un peu à l'humilité, donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Là, pour ce qui me concerne, moi j'ai commencé sur le tard à créer et j'ai eu une première carrière dans la publicité. Et quand j'ai tout arrêté pour ne faire que de l'art, j'avais pas forcément beaucoup de moyens et donc j'ai décidé. Par la force des choses, mais finalement, c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. J'ai décidé de travailler avec des matériaux qui étaient à ma portée, qui étaient là et qui étaient déjà existants. Par exemple, je prenais des cours de peinture académique et en fait, donc on peignait d'après modèle vivant avec de la peinture à l'huile. Et bien sûr, ce que je faisais, puisque je débutais, était loin d'être. Extraordinaire. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai gardé tous ces essais. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai réutilisé ces fonds, ces papiers comme fonds pour ensuite faire mes collages. Là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de collages, notamment pendant le confinement. Et voilà. Et pour moi, c'est super important de ne pas à chaque fois acheter mais de recréer que les choses, que les matériaux aient une vie et que cette vie, elle soit presque illimitée.
D'accord. Donc oui, on parle d'art écologie puisqu'il y a aussi la notion qui est très présente de recyclage et de surcyclage. C'est ça qui est sous-entendu aussi.
Oui, recycler les matériaux en fait, reprendre et refaire à l'infini.
Comme tu le disais, comme tu le soulignais aussi, cette idée d'art écologie ou art écologique, je précise parce qu'il me semble que tu fais la distinction, finalement, peut-être comme beaucoup des choses où on va, qui vont avoir des ramifications écologiques et de développement durable, ça a aussi un impact économique puisque c'est aussi ne pas forcément acheter des matériaux ou faire construire des choses. Je crois que tu parles aussi d'un courant qui s'appelle l'Arte Povera, c'est ça ?
Oui, alors l'Arte Povera, ça va sous l'appellation art. Enfin, moi, je l'ai mis en tout cas sous l'appellation art écologique. Je dis moi, je l'ai mis parce que j'ai créé une newsletter en janvier de cette année, là, en janvier 2020. J'avais envie, en fait, de partager avec le plus de personnes du contenu sur l'art en général et l'art contemporain en particulier, qui est assez difficile d'accès pour le tout venant, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'art mais qui ne s'y intéressent pas assez régulièrement pour le comprendre. Et donc dans l'art écologique, donc qui démarre dans les années 1960 avec le land art et le reclamation art, qui est un art. Alors on a parlé du land art, donc c'est créer dans la nature. Ceux qui créent dans la nature, le land art, en fait, voulaient aussi sortir, casser les codes et sortir des galeries. Le reclamation art, lui, a voulu en fait revenir sur essayer de réhabiliter des lieux qui avaient été par le biais de l'art, des lieux qui ont été abîmés, pollués. Et dans cette même mouvance, on a l'Arte Povera et c'est un mouvement alors là italien qui est aussi né dans les années 1900. Et l'Arte Povera, c'est l'art pauvre, l'art du pauvre. Il est assez intellectuel quand même. Il y a une œuvre en particulier d'un artiste dont j'ai oublié le nom, mais je vois l'œuvre en fait. C'est une salade à Si Giovanni Anselmo, je crois. C'est une, en fait, c'est une stèle en marbre et enfin deux en fait, et il a coincé une laitue entre ces deux stèles et en fait voilà, il essaye de faire passer comme message qu'on est peu de choses sur cette terre et que finalement voilà, que tout disparaît en fait.
Que tout est éphémère. Même l'art. Alors, tu parlais de ta newsletter, on y reviendra plus tard, puisque elle est effectivement passionnante. Et moi, à titre personnel, je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses, puisque je m'intéresse beaucoup à l'art. Mais je me suis rendu compte que je, connaissais très peu de choses à l'art contemporain, notamment par le biais du quiz que tu avais posé. Je me suis rendu compte que je connaissais très peu d'artistes. Et donc, j'ai évidemment relu pour préparer cette émission. J'ai appris plein de choses. Sur ton... Quand tu parles de ta démarche artistique, tu parles aussi... Donc, tu parles d'art, à la fois d'art écologie, de dada et de pop féminisme. Que... Alors, dada, je pense qu'on en a une vision peut-être pour beaucoup parcellaire ou tronquée. Quand tu parles de dada et de pop féminisme, de quoi s'agit-il précisément? Qu'est-ce qui t'inspire dans ces mouvements?
Alors, moi, quand j'ai décidé d'être artiste, j'ai pas eu envie spécialement de me prendre au sérieux. J'ai démarré ça il y a quelques années, hein, donc je ne vais pas donner mon âge, mais voilà. Et puis même, je crois que dans la vie, je suis aussi comme ça. J'ai pas envie de me prendre au sérieux. Et donc ça va dans la continuité de l'utilisation à la du réemploi de matériaux, mais aussi du mélange des techniques, c'est-à-dire mélanger différents matériaux. Le dada, c'est un art de la dérision. Ça se prend pas au sérieux, et c'est un mouvement qui est quand même né au sortir de la Première Guerre mondiale, qui a été un cauchemar. On le sait, avec la grande boucherie, comme tu dis, des millions et des millions et des millions d'hommes et de jeunes hommes qui sont morts. Je ne sais pas si c'est pour rien, mais en tout cas, c'était. Et donc, au sortir de cette guerre, un mouvement artistique s'est créé, un mouvement à la fois intellectuel, global, et qui ne voulait plus être sérieux, parce que finalement la guerre semblerait que on vous l'a fait faire parce que la cause est sérieuse, et au final, quand on se rend compte que tout ça n'a pas servi à grand chose, ou en tout cas a servi des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, il y a eu cette envie comme les techniques mixtes, de casser les codes et donc de tout remettre en question et d'être dans la dérision. Donc le jeu, le comique, et voilà, moi j'aime bien dans mes collages par exemple, ou même dans les œuvres que je crée, j'aime bien mettre des choses qui sont un peu bizarres, des yeux qui sont plus grands que la normale, des bouches qui n'ont rien à voir avec les yeux du visage.
Exorbités.
Voilà, et je pense que comme l'art dada, en fait, l'idée c'est de poser des questions. C'est pas d'affirmer, parce qu'en fait la guerre et la politique en général affirment beaucoup de choses, et je crois que l'art ça nous permet, enfin en tout cas moi ça me permet de retrouver ma liberté et ma liberté d'enfant et de jouer en fait, donc de pas me prendre au sérieux.
C'est intéressant ce que tu dis, puisque finalement les deux éléments dont tu parlais avant, c'est-à-dire à la fois l'idée de casser les codes et de rendre l'art accessible à plus de personnes que lorsqu'il est exposé dans des galeries, et l'idée de tourner l'art lui-même et la façon dont il est perçu en dérision, finalement, tout ça, ça finit par se rejoindre, puisque c'est ça qui fait qu'on casse les codes et qu'on se défie aussi de l'autorité à un moment. Et je pense que c'est aussi pour ça peut-être que le dadaïsme est arrivé comme une bouffée d'air frais, puisque c'était cette espèce de...
Ouais,
de
grande défiance.
Voilà,
ouais,
vis-à-vis grand, de la génération de leurs aînés, ouais, qui les avait envoyés au casse-pipe,
ouais,
en plus.
Ouais, ouais. L'envie donc, de se rebeller, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'anime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je voulais changer le monde, tout casser.
Et tu as canalisé ça par ton art.
En fait, ouais, j'ai décidé que voilà, je ferais de l'art, et surtout que l'art, c'est mon désir, hein, d'artiste. C'est pas celui de tous les artistes, mais pour moi, l'art est à la portée de tous. L'art est pour tous, et je crois que nous sommes tous aussi, nous sommes tous des artistes en fait. C'est juste que après dans la vie de chacun, voilà, il est un fait que on ne peut pas être tous artistes, parce qu'artiste c'est quand même un métier qui est assez difficile, hein, c'est un long chemin, donc faut avoir le courage d'y aller, la gloire et entre guillemets, c'est pas forcément ce que je recherche, mais au moins vivre de son art, c'est pas forcément évident. Et on dit, tout comme à un acteur, on lui dit qu'il peut mettre, et c'est vrai en plus, hein, plus de 10 ans avant de commencer à se faire connaître. Mm-hmm. Donc se faire connaître, ça veut dire être visible et ensuite commencer à vivre de son art. Ça, c'est pas forcément à la portée de tous, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de passer 10 ans à, je sais pas si on peut dire, galérer ou en tout cas à s'obstiner pour, oui, pour y arriver. Mais en dehors de ça, pour moi, on est tous créatifs et on est tous des artistes.
Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Comme tu le disais un peu plus tôt, tu as d'abord travaillé dans la publicité durant plusieurs années. Avant de te consacrer à plein temps à ta pratique artistique. Et l'idée, comme tu le disais, c'était aussi d'en vivre. Et c'est aussi parce que toi, tu as toujours eu cette veine, peut-être même cette verve artistique et créative-là, et qu'à un moment, ça s'est imposé, que c'est devenu plus fort que tout le reste. C'est une vision qui paraît extrêmement romantique de le tourner comme ça. Mais...
Non, mais en fait, j'ai eu... Je sais pas si je crois qu'au fond de moi j'ai toujours voulu être une artiste et que j'ai une âme de rebelle et pour moi enfin rebelle artiste et rebelle ça va ensemble. Bon, après c'est moi qui
ça s'accommode, les deux s'accommodent bien en tout cas.
Et en tout cas envie de sortir du cadre, de casser les codes, voilà. Et donc je pense que et puis moi, je viens d'un milieu modeste, donc il a fallu que je fasse mon chemin pour arriver, enfin pour me sortir de voilà. J'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 5 ans, mais après, j'ai avec mes parents, on est allé en banlieue nord, hardcore. Et non, c'était super. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi là-bas que j'ai pu, à travers toutes les cultures, le mélange des cultures, je crois que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de richesse. Alors, enfin, une richesse, enfin, voilà, ça a ouvert mes horizons. Après, c'est vrai que, comment dire, quand tu viens d'un milieu modeste, on te dit que, et puis même, hein, d'ailleurs, je pense que ça peut être aussi dans un milieu pas forcément modeste, mais on te dit que artiste, c'est pas un métier, quoi. Enfin, mm-hmm. Tu te dis pas, je vais faire artiste parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, donc voilà. Et puis ma mère, elle voulait que je travaille dans une banque, donc je sais parce que c'est elle pensait que l'argent était à la banque, donc elle me dit, ma fille, tu vas travailler à la banque. Donc non, j'ai pas fait ça. J'ai fait des études de cinéma, mais c'est vrai que malheureusement, enfin après, je suis partie dans la production, donc l'organisation et la gestion des tournages de films. Je suis partie sur des films courts, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la publicité et du clip vidéo. Et puis voilà. Mais en parallèle, très jeune déjà, je prenais des cours de théâtre, après des cours de peinture, des cours de dessin, et puis après j'ai avancé dans ma carrière. Et quand je n'ai pas pu, en fait, il arrive un moment où ton métier alimentaire, tu comprends que si tu lâches pas la rampe et si tu sautes pas dans le grand bain, tu peux pas, tu te donnes pas vraiment la possibilité. Donc à un moment donné, j'ai pas fait de burn-out réellement, mais j'ai décidé que je ne ferais plus que ça.
Au bout d'un moment, c'était une évidence. Et ouais, parfois, ce qui nous retient, c'est finalement le dernier pas et qui reste à sauter, et le grand saut, comme on dit. Donc, c'est ce que tu as fait.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h sur Radio Campus Paris.
Tu le disais tout à l'heure, dans ton travail et dans ta démarche artistique, tu t'intéresses également beaucoup aux dualités, notamment interroger les canons de la beauté. Tu le disais dans les... de mixer et matcher, comme on dit, des choses qui ne vont pas forcément bien ensemble. Et finalement, ce qui est peut-être ce qui ressort notamment de ça, c'est... Tu interroges le rapport entre ce qui est beau et ce qui est laid. Alors la question peut paraître un petit peu métaphysique, mais en tout cas, au fond, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, et même est-ce qu'en art, est-ce qu'il y a vraiment du beau et du laid?
C'est une très bonne question. En fait, je dis c'est une très bonne question parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a une réponse. Et c'est ça qui est génial au final, c'est qu'il n'y en a pas. Le beau versus le laid, en fait, dès que tu es... Tu vis dans un monde où il y a beaucoup de culture populaire. On peut dire que la publicité, la culture pop, le pop art, là, si on rejoint le monde de l'art, c'est pas forcément pour les intellectuels un art qui est beau. Alors, voilà, parce que c'est pas comment dire, Léonard de Vinci, c'est pas du Léonard de Vinci ou d'autres grands peintres qui seraient
harmonieux, on pourrait dire.
Oui, voilà, enfin, qui sont de toute façon très intéressants, moi, en fait, ce qui m'a d'abord les canons esthétiques, ils ont toujours évolué tout au long de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'art en général. Il y a eu une époque où avoir la peau très très blanche, laiteuse, c'était un canon. Ça faisait partie des canons de beauté. Voilà, aujourd'hui, les canons esthétiques ont évolué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de se dire que, à la fois, en fait, de faire une espèce de... C'est comme si la Renaissance et le 21e siècle, en fait. Dans mon travail, j'ai envie que les deux se rejoignent au même endroit, en fait. Du coup, que ça fasse... et que personne, surtout, ne s'autorise à me dire ou à dire à n'importe qui que ça... C'est beau parce que si tu as fait des études d'histoire de l'art, si tu es éduqué et que tu as éduqué ton œil, eh ben tu penses que c'est beau. Mais moi, je peux décider que quelque chose qui a l'air très laid est très beau, ou quelque chose qui a l'air très beau est très laid. Le beau, le laid, c'est aussi ce qui est lisse et ce qui n'est pas forcément lisse. Voilà. Pour moi, en fait, en tout cas, ma définition. Moi, j'interroge tout ça. Donc, je crée. Je propose des choses et puis après, ce qui m'intéresse, c'est que les gens me disent ah ouais, ça me plaît, non, ça me plaît pas, ah ouais, c'est bizarre.
Voilà. C'est perturbant parfois, mais dans le bon sens du terme.
Exactement.
Comme tu disais avant à propos des dadaïstes, l'artiste, c'est pas forcément celui qui vient avec des réponses, mais qui a au moins le mérite de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de poser des questions.
Voilà, c'est ça.
Après, c'est vrai que
poser des questions.
C'est vrai. En plus, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, il n'y a pas de réponse par définition. Donc,
même en amour, un homme ou une femme va te dire qu'il trouve cette femme belle, l'autre te dira bah non, moi je trouve pas qu'elle est belle. Et
ça s'explique pas.
Voilà, il n'y a pas de. Voilà, donc,
oui, puisque c'est souvent plus ça se fait à un niveau plus viscéral et
oui,
épidermique que ça, voilà. donc c'est vrai que
donc dans l'art c'est la même chose, mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'art qui veulent garder ce milieu à la fois obscur mais inaccessible, hein. Donc
exclusif.
Voilà, ton rang social n'est pas assez élevé, donc tu ne maîtrises pas parfaitement toute l'histoire de l'art et toutes les dates et tous les mouvements, donc toi tu fais pas partie du cercle. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me dérange énormément.
Ce que tu disais à l'instant, c'est très intéressant et ça me mène tout droit à ma prochaine question. En fait, je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais l'art doit être accessible à tous, puisque à la fois, il y a cette idée qu'on est un peu tous artistes en nous, même si on ne le devient pas tous forcément, et que l'art peut être accessible à tous. Est-ce qu'un art qui, justement, qui sait se rendre accessible, est-ce que c'est un art qui va, comme tu le disais, réutiliser, recycler et parfois redéfinir les codes de choses qui sont bien connues comme la publicité, comme la culture populaire? Est-ce qu'il doit le digérer? Est-ce qu'il doit les réinventer, les influencer? Puisque l'influence, les liens entre entre publicité et art finalement sont plus ténues qu'on veut bien le dire. Ça rejoint aussi cette idée d'un art qui serait beau que pour être beau, mais c'est souvent un petit peu plus compliqué que ça.
Alors, l'art accessible à tous, c'est plein de choses. Hein. Je veux dire, un Picasso, il n'a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire de l'art pour qu'un tableau de Picasso te soit accessible. Idem pour les Nymphéas de Monet et j'en passe et des meilleurs, ou un Jackson Pollock. Après, moi, dans mon travail et dans ma démarche, je m'attache et je m'intéresse beaucoup à la culture pop, peut-être parce que, et au pop art, parce que et même plus précisément au pop féminisme, mais parce que ça rejoint le fait que j'ai pas envie de me prendre au sérieux et que, alors peut-être que j'évoluerai dans ma carrière et que je ferai plus tard, dans 5 ans ou dans 10 ans, des tableaux très sérieux. Je sais pas si c'est très sérieux. Non, je crois que je serai jamais sérieuse. Là, en ce moment, j'ai très envie de revenir à la peinture, de sortir un peu du collage. J'en ai beaucoup fait là ces 2 dernières années pendant le confinement. Et en peinture, pareil, j'ai envie. Si je devais peindre un portrait ou un personnage, j'ai toujours eu envie, par exemple, de faire juste des gros plans. Parce que comme j'ai fait des études de cinéma, je rêve de tableaux. Et il y a des artistes qui font déjà ça, j'ai rien inventé. Des gros plans totalement décadrés par exemple, ce serait juste un tableau, ce serait juste une hanche qui descend jusqu'au genou. Mais en même temps, en gros plan, on ne sait pas ce que c'est. Ou alors, une épaule... Là, il y a ce week-end, je suis allée voir l'expo de Martin Margiela, que vous connaissez, je pense.
Oui, cette expo, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de.
Ouais. Il faut aller la voir. C'est vachement intéressant parce
que
justement.
C'est dans quel musée déjà?
C'est à Lafayette Anticipation.
Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord.
La fondation Lafayette Anticipation. Ouais. L'expo est gratuite et Martin Margiela, qui est un très grand couturier, a toujours été un artiste dans l'âme et donc là il fait une expo et voilà, il casse pareil, il casse les codes, il fait des choses super drôles. Il y a des tableaux avec, il y a des petits cartels, le petit papier là à côté, enfin le petit carton qui est à côté d'un tableau où il y a une description de l'œuvre qui est faite et en fait il n'y a pas de tableau. Donc voilà, il utilise aussi l'humour. Donc après, pour en revenir à la question de la culture populaire et du fait que... Moi, c'est vrai que comme j'ai eu une carrière dans la publicité, et je trouve que... Enfin, moins aujourd'hui, mais dans les années 90-2000, jusqu'aux années 2000, on avait des annonceurs et des agences de publicité qui faisaient des pubs, mais vraiment complètement délirantes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient vraiment pas peur de mettre en porte-à-faux le produit. Le produit, c'était pas le sujet. Aujourd'hui, on est devenu super frileux. On fait un shampoing où on vend un...
Du shampoing.
Ouais, du shampoing. Non, du shampoing ou une bouteille d'eau. Et en fait, il faut vraiment être très près du produit au lieu de casser complètement le truc.
C'est plus premier degré que ça l'a été.
Ouais. Ça, c'est bien dommage. Donc voilà, moi, c'est vrai que ce qui m'attire, la culture populaire m'attire. Et je crois que d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de créateurs vont chercher, que ce soit dans la mode ou ailleurs, ils vont chercher dans la rue l'inspiration. Et dans la rue, les choses qui sont intéressantes, c'est souvent les mélanges. Et les mélanges, on peut les avoir à Paris, mais on en a pas mal aussi. On a des gens qui font des choses assez délirantes, soit dans leur maquillage, soit dans leurs vêtements. Dans des endroits où on n'a pas forcément l'argent pour acheter le total look, je ne sais pas, Hermès, Dior ou...
Et là encore, et encore une fois, on retombe sur l'idée de dégoupiller les attentes du que ce soit le spectateur ou téléspectateur quand on parle de publicité, ou en tout cas de celui qui observe l'œuvre. Tu parlais du terme de pop féminisme. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Qu'est-ce que ça englobe?
Alors, le pop féminisme, c'est un art militant qui défend donc, on va dire en gros, la cause des femmes, mais c'est un art pareil. Le féminisme, ça a souvent été très. D'abord, il y a eu, moi, enfin, de ce que j'en sais, hein, comme ça, hein, je ne prétends pas tout connaître, hein, mais pour moi, ça a toujours été un mouvement assez, assez violent, froid. Pas fun et pareil aussi réservé à une élite, parce que c'est bien de ça dont on parle au final, dans tout ce qu'on vient de dire. Et le pop féminisme, c'est un mouvement un militant féministe, mais qui communique de manière très décomplexée via les réseaux sociaux, qui aborde les mêmes sujets que le féminisme classique, mais de manière plus détendue, décomplexée. Et voilà, il y a des gens qui vont vous dire que, comment elle s'appelle cette artiste américaine, Beyoncé, voilà. Alors, est-ce que Beyoncé est une féministe ou pas?
Eh bien, c'est souvent un débat qui revient, effectivement.
Voilà, moi, je pense que oui, parce qu'en fait, à partir du moment où elle, par sa musique, en tout cas, elle touche... d'abord, c'est une femme... Voilà, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui a réussi. Le féminisme, c'est aussi ça, hein, c'est pouvoir dire que les hommes et les femmes ont le droit à une certaine forme d'égalité, et on en est très 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 loin. Et donc si on veut que cette cause avance, c'est bien qu'elle puisse, que ces idées-là puissent être véhiculées dans toutes les couches sociales de... Voilà. Dans toutes les couches et dans toutes les classes sociales. Donc s'il faut en passer par le pop féminisme et Beyoncé, ben moi je suis pour.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h sur Radio Campus Paris.
Très bien, très intéressant. Alors, comme tu le disais, tu as beaucoup étudié, tu t'es intéressé à beaucoup de sujets. Enfin, c'est ce qu'on voit quand tu en parles, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques différentes, notamment dans l'histoire de l'art. Une partie aussi importante de ton travail, c'est finalement de transmettre ce que tu as appris et ce que tu as appris sur le chemin. Donc tu parlais de la newsletter. Mensuel que tu envoies de l'art en barre, d'ailleurs il faut le citer, on l'a pas encore cité, c'est bien ça?
Ouais. De l'art en barre. C'était un slogan de pub, ça, hein?
Effectivement, mais un slogan de pub des années 90, parce que maintenant je pense que c'est trop décalé pour. Et donc il y a ça, petit A, et petit B, tu donnes aussi des cours surtout à des enfants, je crois.
Oui. Ouais. Enfin, ça fait déjà ça fait 4 ans déjà. Mais là, c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est l'envie de. Moi, je suis artiste pour. Enfin, la seule chose qui m'anime, outre le fait de créer et d'être super heureuse quand je crée, parce que je me sens super bien quand je crée. Il s'agit pas pour moi de réussir. Une sculpture, une peinture, un collage, mais simplement d'être dans le process de recherche. Et donc, quand je donne des cours, en fait, enfin, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de partager, d'échanger, d'échanger avec les autres. Et j'ai surtout envie, pourquoi je donne des cours aux enfants en particulier, j'ai envie que la génération à venir, donc les enfants à qui je donne des cours, ils ont entre 5 et 11-12 ans, parce qu'après ils commencent à partir en mode super ado, ils se rebellent. Donc, là, ils remettent en question ce que je dis, donc ça va pas du tout. Non, je rigole.
Et finalement, peut-être qu'ils ont bien appris ce que tu leur as inculqué,
ouais,
c'est-à-dire
qu'ils
défient l'autorité par l'ironie. Et... donc finalement, c'est les parents qui doivent te remercier après.
et donc, ces enfants-là, je leur apprends, enfin, je leur propose de créer en recyclant des matériaux, donc des morceaux de bois, des canettes de soda, des bouteilles de lait et ils font des sculptures et des collages et des peintures à partir de ça. Et en fait, en même temps, au début de chaque cours, je leur présente un artiste donc de l'art moderne et de l'art contemporain. Et donc sans forcément leur faire un grand discours, hein, je leur montre 3-4 photos. Voilà, de l'artiste, je parle 5 minutes, je leur pose des questions sur ce que ça leur évoque. Et ce que je fais, c'est que je mets dans leurs yeux des images. Mm-hmm. Donc après, des canons esthétiques, on peut dire, enfin en tout cas des images. Et je mélange d'une semaine à l'autre des artistes qui n'ont aucun rapport. Après, très vite, parce que les enfants ont besoin de se mettre dans l'action, ils se mettent dans l'action, ils créent. Et moi, je leur dis dès le début que, pareil, ce sont des artistes, donc les enfants, ils sont encore tout près de leur créativité, hein. Dès qu'ils entrent au primaire, voilà, CP, CE1, CE2, et au bout du CE2, CM1, ils commencent à perdre la connexion, puisqu'ils ont des devoirs, il faut qu'ils respectent des codes, et tout ça, le cadre, comme tu dis, exactement. Et donc, moi, j'essaye de leur dire, voilà, que d'abord, tout ce qu'ils font, c'est superbe, et du coup, ça leur donne énormément confiance en eux, ça leur donne l'envie d'essayer des choses. Et bon, après, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est un peu comme de l'art-thérapie, en fait. Mais en tout cas, les parents, j'ai des parents qui je donne des cours particuliers et des cours collectifs, et j'ai des parents qui me disent bonne séance. J'ai l'impression ils s'imaginent qu'ils emmènent, enfin, ça fait tellement du bien à leurs enfants qu'ils ont l'impression qu'ils vont chez le psy, mais en même temps, ils s'amusent beaucoup, ils sont très fiers de leurs œuvres, et leurs parents aussi, beaucoup des créations qu'ils font sont exposées dans le salon. Figurez-vous.
Ça, c'est... Oui, après, c'est vrai que ça, même si ça peut paraître... c'est très différent, mais pour autant, le parallèle que tu fais avec l'idée d'aller voir un psy est quand même assez est bien vu, puisque y a quand même l'idée de canaliser, d'extérioriser des choses qu'on va avoir à l'intérieur, et d'autant plus quand on est enfant, c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientisées, sur lesquelles on ne va pas forcément mettre de mots, et finalement, qu'eux vont... extériorisé par ce biais-là, j'imagine.
Bah, en fait, ouais, c'est-à-dire que à partir de 5, 6, 7 ans, ils entrent à l'école et on leur dit que voilà, ils doivent entre guillemets rentrer dans le rang. Les enfants, comme nous, hein, adultes, hein, mais nous, on en a un peu plus conscience, les enfants. Il se passe plein de choses à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas trop quoi en faire. Par exemple, leur colère, la jalousie, ou la tristesse. Et en fait, moi, ce que je leur propose, c'est de jouer avec tout ça, c'est d'accepter tout ça, de rassembler tout ça, et que ils l'utilisent, qu'ils utilisent tout ça pour justement créer avec, en fait.
Et comme on le disait, il y a aussi ta newsletter. Ça, c'est un projet que tu as, à laquelle j'ai la chance d'être abonné. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'étais entré en contact avec ton travail. Ça, c'est un projet qui est arrivé plus tardivement, que tu mûrissais depuis quelques années, ou qui te tenait à cœur depuis longtemps également.
Alors, oui, depuis longtemps. Bah, j'adore écrire, en fait.
Et tu écris très bien, je le précise. Non, mais c'est un plaisir à chaque fois de lire. Et moi, vu que j'écris moi-même sur une bonne partie de mon temps, je suis très sensible à ça. Et effectivement, c'est très agréable et c'est très agréable et très érudit. Donc, on en reparlera à la fin de l'émission pour bien faire ta publicité, puisque
parce qu'on est aussi là pour ça.
Voilà, exactement. Pub, non, et c'est en plus toi, ça fait un petit peu partie de ton ADN. Donc j'espère qu'il y aura après la diffusion de cette émission que tout le monde se jettera sur ton site.
D'abonnés.
Exactement. Ça fera peut-être planter ton site. Je m'en excuse d'avance. Je suis doté d'une force de frappe dont je me doute même pas. Mais et oui, ça c'est pareil. Finalement, c'est la même idée, l'idée de passer, de transmettre.
Ouais. L'idée de transmettre, mais en fait je crois que le partage, la transmission, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, mais je crois que quelque part, il y a, on peut dire, si, enfin, l'idée me vient là à l'instant, je fais tout ça aussi parce que peut-être qu'enfant j'ai manqué de ça, j'ai manqué de de nourriture artistique et peut-être que là, je nourris mon enfant intérieur. Et que voilà, j'ai envie que tout le monde, voilà, que les enfants déjà se connectent et restent connectés à leur âme d'enfant, donc à leur créativité, etc. Et après, pour la newsletter, bah, j'ai envie que les adultes se remettent à, enfin, qu'ils puissent, si c'est possible, qu'ils puissent aller voir des expos, qu'ils puissent comprendre ce que c'est que l'art contemporain sans avoir à lire 150 pages d'un bouquin.
Dans un langage abscon,
voilà, tu comprends vraiment mais rien du tout. Et je ne sais pas s'ils le font exprès. Franchement, c'est très bizarre. Et c'est vrai que tous les retours que j'ai, alors mes newsletters me prennent un temps fou.
Bien sûr.
Alors c'est un challenge que j'avais envie de relever. Les premières, en tout cas, j'en suis à la 7e ou à la 8e, j'ai commencé en janvier, ça me prenait 10 jours de travail.
Pour une newsletter qui part tous les mois,
ouais.
Donc un tiers du mois, quoi.
Voilà, bon, qui ne me rapporte rien, mais le désir encore de relever un challenge, et les retours que j'ai, et ça c'est super, super agréable, c'est que tout le monde me dit à la fois que c'est facile à lire, que les gens comprennent ce que je raconte, quand je leur parle d'art contemporain, par exemple.
Tout à fait.
Et ils découvrent des artistes. Voilà. Donc c'est des artistes, c'est pas forcément choisi, parfois des artistes un peu inconnus, justement pour mélanger un peu toujours la même histoire.
Tout à fait. Et moi, d'ailleurs, un titre tout personnel, pendant la préparation de cette émission et en relisant les newsletters que tu avais réalisées, j'ai découvert le travail de Barbara, je sais pas si ça se prononce Kruger ou Kruger.
Ouais, Kruger, ouais.
Et en plus, c'est pile dans ce qu'on disait avant, c'est-à-dire elle réutilise des codes qui sont désormais bien connus, qui ont été digérés, notamment les codes de la publicité et tout un pan de l'art soviétique aussi, pour faire passer des messages. Et pareil, c'est des collages, c'est assez passionnant.
Des messages forts.
Oui, tout à fait.
Très engagé, très militant.
Oui, tout à fait, sur le consumérisme, souvent, ouais. sur ce genre de thématique. Et un autre aspect qu'il y a dans ta newsletter, c'est que tu parles aussi, c'est ce que tu appelles, il me semble, la partie vie ma vie d'artiste, c'est-à-dire que tu parles aussi de ton travail. Et ça, je trouvais ça très intéressant, puisque, en fait, au-delà de certaines idées reçues qu'on peut avoir sur l'art contemporain, que c'est plein de choses, c'est-à-dire que c'est abscon, que c'est parfois obscur volontairement, puisqu'il y a parfois il y a aussi cette volonté de que les gens qui le font restent entre eux, cette idée d'entre-soi. Mais on a aussi, je pense, des idées reçues sur les artistes contemporains. Et finalement, moi, je trouvais ça super intéressant. Il y a notamment une de tes newsletters où tu as consacré une bonne partie de la newsletter à dire comment tu avais relancé ton site internet, avec qui tu l'avais fait, pour le recréer de zéro, parce que aussi c'est ta première vitrine, ou même de dire, par exemple, quand on crée un tableau, combien faut le vendre, machin. Ouais. Et ça, finalement, c'est des choses. On se doute que ça existe, mais on ne sait pas comment c'est fait. Ou alors comment c'est, par exemple, le prix, comme
le
tu
prix
le dis,
ouais,
c'est tout sauf arbitraire.
Ouais.
Et c'est bien d'en parler, puisque finalement, on n'en parle pas. Quoi.
Ouais. Alors ça fait partie, c'est pareil, hein. C'est très élitiste. Hein. Là, aujourd'hui, on est dans un grand mouvement où l'art commence de plus en plus, et notamment avec les galeries d'art en ligne, qui se sont beaucoup, qui existent de plus en plus, et ça s'est énormément démocratisé, en partie aussi grâce à cette merveilleuse pandémie que nous avons traversée. Il s'est passé quand même plein de choses positives.
Autant en voir les bons côtés, exactement.
Ouais, non, c'est vrai.
C'est-à-dire
que voilà, les galeries d'art, elles travaillaient beaucoup le côté. Enfin, il fallait que tout soit caché, les prix, comme ça. Enfin, et même tu as des artistes qui ont encore aujourd'hui beaucoup de mal à donner leur prix sur leur site internet parce que, éventuellement. J'exagère un petit peu, mais ils se disent que définir un prix, alors que ça, en fait, ils se disent que si la personne a de l'argent, je vais lui faire un prix haut, et que si elle n'en a pas beaucoup, je vais lui faire un prix bas. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et c'est pour ça qu'aussi beaucoup de personnes qui voudraient. Alors, l'autre idée, ce serait aussi que je pense que ce serait bien que tout le monde achète de l'art et que l'art soit accessible, mmh. y compris en termes de prix. Et au final, aujourd'hui, il y a de plus en plus de transparence, puisqu'il y a des grandes galeries d'art comme Caso Art qui existent, et comme une galerie d'art en ligne vend, elle est obligée de mettre son prix. On a vu que la FIAC, l'année dernière, qui n'a pas pu avoir lieu en physique, a fait
une édition, ouais, une édition en ligne, online, en distanciel. Ouais.
Elle a donné les prix des œuvres. Et au final, les prix ne sont pas si dingues que ça. Mmh. Parce que si on m'avait demandé combien valait ce tableau,
oui,
d'un très grand artiste...
on intériorise l'idée que c'est très cher.
Ouais, et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Donc oui, dans ma newsletter... Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la newsletter d'un artiste, c'est aussi de la communication. Et la plupart du temps, les artistes font une newsletter pour faire de la communication, mais ils ne parlent que d'eux et de leur actualité. Et moi, je trouve ça très, très... trop restrictif. Mmh. Je pense que si j'ai envie que les gens s'intéressent à moi, c'est bien que je leur donne plus que mon actu et que je ne fasse pas que ma publicité. Et même quand je fais ma publicité, d'ailleurs, j'ai cette espèce de...
Modestie.
Cette troisième partie qui s'appelle Vie ma vie d'artiste. Mmh. C'est une joke, hein. Ça me fait penser à une émission de télé à la con. Vie ma vie d'artiste, c'est aussi jouer la carte de la transparence. Mmh. Et c'est donc de me suivre mois après mois et de voir que voilà, il a fallu que je redéfinisse mes prix parce que à un moment donné, quand je les ai faits la première fois, je me suis dit je tiens énormément à ce tableau, donc ça c'est 500 euros et l'autre. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, j'essaye de donner.
Et oui, quand tu parles de transparence, en plus c'est exactement ça, puisque il y a une de tes lettres aussi où tu parles. Tu vas me dire, mais je sais plus si c'était avec une galerie ou un site qui souhaitait mettre en avant tes œuvres. Et puis après avoir enquêté rapidement, tu t'es rendu compte que c'était pas sérieux et que par ricochet ça déstabilise. Enfin, comment dire, ça dévalorise et ça décrédibilise ton œuvre à toi aussi. Mm-hmm. Donc
c'est assez intéressant. Moi, je trouve que, enfin, moi en tout cas, j'aimerais bien lire, si je devais lire cette newsletter qui serait donc les dessous, on en revient toujours à la même chose, hein, montrer ce qui est caché, remettre en question les cadres, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Eh bien, effectivement, même en tant que jeune artiste, c'est pas parce qu'une galerie d'art s'intéresse à moi que ça veut dire que je signe en bas de la page parce que je ne suis pas représentée par une galerie pour l'instant, ce qui n'est pas le cas, mais je suis représentée. Mais là, c'était une galerie dédiée aux femmes. Et donc, au début, j'ai trouvé ça super parce que Et en fait, je me suis rendu compte que la créatrice de cette... Elle était pas du tout professionnelle. Donc, je lui ai dit non. Ça s'est pas très bien passé. Et du coup, j'ai raconté cette aventure pour dire aussi aux artistes, parce que cette newsletter, elle est pour ceux qui ne sont pas artistes, mais aussi pour les artistes. D'ailleurs, j'ai des artistes qui la suivent et qui la trouvent très bien. Et de leur dire d'oser, même au début de leur carrière, dire non. Si la personne n'est pas à la hauteur de...
Vaut mieux dire
et
non
donner
au
quelques
bon
clés,
moment.
Voilà, ouais. Quelques clés pour comprendre, regarder le site de la galerie, oser poser des questions. Mm-hmm. Parce qu'en fait, là, il s'est trouvé que comme je posais beaucoup de questions, elle a fini par me dire que j'étais pas casse-pied, mais pas loin.
Mm. Alors que, et c'est ce que
tu
disais.
Dans n'importe quel autre domaine, dans n'importe quel autre milieu, si tu veux, tu vas travailler dans une boîte...
bien sûr.
Tu poses des questions, tu as le droit de poser des questions.
Ah, bien sûr, si ton contrat te dit que tu dois être là
si
de telle heure à telle heure,
avant
de signer, on parlait de la banque tout à l'heure, avant de signer un prêt avec ta banque, tu étais sûr de lire tous les petits caractères.
C'est normal de poser des questions.
Évidemment.
En l'occurrence, il y a aussi cette idée que comme l'artiste, c'est pas facile, donc on va en profiter et on va lui dire. il n'a pas le droit de poser de questions. En fait. Ouais. Il a déjà de la chance qu'une galerie s'intéresse à lui. Ben non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je défends.
Il faut être
exigeant,
même vis-à-vis de son propre art et ne pas le trivialiser comme ça.
Pour moi et pour les autres, moi et les personnes qui s'intéressent à mon travail.
Alors, toujours dans cette idée de la transmission de l'art, je crois qu'un projet dans lequel tu as commencé à t'investir ou dans lequel qui va se concrétiser d'ici peu de temps. Il me semble que c'est des résidences, un projet de résidence un projet de résidence artistique, c'est bien ça?
Mais oui, alors enfin résidence artistique, oui c'est ça. Alors
parce qu'en fait, je dis résidence artistique, mais en fait quand
c'est des
quand on sait pas, moi il y a quelques années j'avais tendance à raisonner comme ça aussi. Quand on dit résidence artistique, souvent c'est un lieu qui est mis dans lequel un artiste va venir travailler et trouver l'inspiration. C'est pas la résidence telle qu'on l'entend dans un hôtel avec la piscine et tout frais payé. Quand on parle de résidence, c'est ça surtout. Donc toi, c'est ce que tu souhaites proposer à l'échelle d'un week-end?
Oui, alors en fait, alors résidence artistique, c'est effectivement, tu peux postuler pour aller dans des lieux très, 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 très connus et réservés à des artistes où tu vas pouvoir réfléchir à ton art pendant des mois et des mois et créer une œuvre. Là, c'est pas du tout ce que je propose. Moi, c'est toujours toujours la même histoire. Bon, il se trouve que dans un mois, je pars vivre à la campagne. J'ai acheté une maison.
C'est pour ça qu'on a fait cette émission à ce moment-là. Le timing était bon.
voilà, après plus d'une vingtaine d'années dans un appartement à Paris, pareil, merci le Covid. Hein,
tu fais partie des nombreuses personnes qui se sont rendues compte qu'un appartement à Paris, c'est bien, mais un petit bout de jardin, c'est quand même sympa.
Et beaucoup plus de mètres carrés à la campagne, c'est vachement mieux. Donc effectivement, j'ai acheté une grande maison avec une grande dépendance et j'ai aussi ce désir d'organiser des week-ends pour tout le monde, en fait. Voilà, des personnes qui ont envie de venir passer 2 jours à s'essayer à la peinture, au collage, à la sculpture, à l'art écologie.
Passionnant. très intéressant. Alors, on va terminer par rappeler ton actualité qui est riche. La dernière question que je pose à chaque invité de l'émission, c'est un petit peu le rituel, la tradition, et je pense que ça devrait te plaire puisqu'on reste dans l'idée de transmission et de partage. Peux-tu partager avec nos auditeurs une œuvre artistique qui te tient particulièrement à cœur? C'est-à-dire, alors, ça peut être un tableau, ou alors un livre, un film, une chanson, un album. L'idée, c'est vraiment de partager. Tout est permis. Est-ce que tu as... Le plus dur, c'est d'en choisir qu'un seul, généralement.
Ouais, c'est d'en choisir une, en fait. C'est pas du tout... Oh là, j'ai pas préparé ma question, là. moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est effectivement la dernière expo que j'ai faite samedi, donc de ce fameux Martin Margiela, artiste.
Lafayette Anticipation, c'est bien ça?
Ouais, Lafayette Anticipation. Si je devais choisir une œuvre... Il y en a une qui me vient à l'esprit, là, sans réfléchir, qui m'a fait beaucoup rire. Et en fait, c'est un abribus. Il a reconstitué donc un abribus, mais qu'il a rempli, qu'il a recouvert entièrement de poils. Et donc, ça, pour moi, c'est effectivement très dada.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On est proche du dadaïsme. C'est pas très loin de l'urinoir de Duchamp, finalement, qui n'était pas de Duchamp. D'ailleurs, je l'ai appris dans ta newsletter. C'est pour briller en société, c'est pratique.
Exactement.
Qui était l'œuvre d'une femme dont le nom m'échappe. Mais...
Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on l'apprenne maintenant.
L'histoire a retenu Duchamp.
Duchamp, exactement.
Donc l'abribus poilu.
Donc c'est un abribus qui est fait de poils, alors de la fourrure. C'est pas de la vraie fourrure. Hein.
Synthétique.
Ouais. Mais quand je suis arrivée dans la salle, et que je sais pas, ça m'a fait vraiment rire, sourire, et ça a réveillé en moi une grande joie, en fait. Cette joie qu'on a quand on est enfant et qu'on a le droit de faire des bêtises, qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Et c'est à la
on
fois...
a le droit de faire n'importe quoi, on le dit d'ailleurs. Ouais. Le droit, c'est
il faut
le
faire
message.
N'importe quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé cette œuvre. Elle m'a vraiment touchée. Et elle m'a donné l'envie de continuer. Voilà, j'espère que je sais pas, qu'elle m'a donné envie de continuer à faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, sans obéir à rien ni personne. Je sais pas si elle fait cet effet aux autres, mais en tout cas, je pense qu'elle fait sourire. voilà, ce côté décalé, moi ça m'a empli de joie. Et de toute façon, donc allez-y vraiment, parce qu'en plus c'est à la portée de toutes les bourses puisque c'est gratuit. C'est intéressant. Et en plus, ils ont un document qui. Et alors, ils ont des médiateurs à qui on peut poser plein de questions. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment génial.
C'est pas mal, ouais.
Qui vous explique, vous dirige, enfin, vous, voilà, suggère des pistes de réflexion. Et ils ont un petit document de 4 pages qui explique chaque œuvre. Mais il y en a plein d'autres. Hein, mais voilà, celle-là, en tout cas, c'est celle qui me vient là, comme ça, tout de suite, sans réfléchir à l'esprit.
Super, ça donne envie d'y aller. Alors, pour terminer, on va rappeler ta riche actualité. Tu exposes en ce moment dans un hôtel du 11e arrondissement.
Ouais.
Si...
L'hôtel Les Deux Girafes, il porte bien son nom, lui aussi. Hein, il est...
Très bel hôtel d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'aller.
Ouais, c'est un hôtel 4 étoiles. Donc, c'est vrai que, à la fois, moi j'aime bien casser les codes et tout ça, mais j'aime bien aussi que le travail d'un artiste soit présenté. Aussi dans des endroits qui permettent que ce soit pas tout fouillis. Voilà. Enfin, moi j'ai une certaine exigence parce que j'ai beau dire que j'aime tout ce qui est décalé, mais je suis aussi une personne extrêmement perfectionniste et j'aime quand les choses sont bien faites et bien présentées quand même. Donc voilà, c'est dans un hôtel 4 étoiles qui s'appelle l'hôtel Les Deux Girafes dans le 11e arrondissement.
C'est une expo qui est visible jusqu'à quand ?
Jusqu'au 9 janvier. Alors sur l'affiche, c'est écrit 4 janvier 2022. Ce sera jusqu'au 9, le dimanche.
D'accord.
Voilà. Donc il vous reste encore un peu de temps pour aller la voir. L'entrée est libre, bien sûr. Et j'y présente une quarantaine de collages.
De tes différentes.
Le titre de l'expo, c'est Human Nature.
Donc tout ça, on peut retrouver bien sûr sur ton site. Mmh. Et ton actualité, c'est également.
C'est www.najam.fr. Najam.fr.
Donc sur ce site, tu recenses l'essentiel de
tes
différentes activités. Et c'est également sur le site qu'on peut s'inscrire à ta newsletter.
Oui.
Voilà. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, que vous connaissiez peu de choses ou rien du tout à l'art contemporain ou que ça vous intéresse, franchement, allez-y, puisque c'est passionnant. On découvre plein de choses et également, comme on le disait un peu plus tôt, plein de choses sur qu'est-ce que c'est la vie. Quotidienne.
Vis ma vie d'artiste!
Exactement, avec ses bons côtés et ses parfois moins bons côtés. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour nous parler de ton parcours et de plein de choses, passionnantes. On aurait pu parler encore pendant des heures.
Pendant 4 heures.
Tout à fait.
Merci à toi de m'avoir invité, Robin.
Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure, pendant cette interview. Et bonne soirée à tous et je vous dis au mois prochain. Bonne soirée.
Bye bye.